Robert Henke, Nicolas Cruz et Zip. Scène extérieure, performance audiovisuelle, soirée drone, house, techno ou expérimentale, 6 jours et nuits de découverte. Info sur mutech.org.
Choc.ca s'associe aux soirées d'écoute publique en partenariat avec les RIDM et Prime pour la deuxième édition du concours de documentaire sonore Le réel à l'écoute. Vous êtes un créateur sonore canadien et vous travaillez sur des œuvres francophones? C'est votre chance de remporter plus de 1000 $ de prix et une place dans la programmation des RIDM 2017. Vous avez jusqu'au 31 août minuit pour soumettre votre projet sonore de 10 minutes maximum. Pour participer ou obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet « Le réel à l'écoute ».
Bonsoir, bonsoir, bienvenue à Pop en stock. Je m'appelle Hélène Lorrain et ce soir, c'est Pop 143. On va parler de comics féministes. C'est une suggestion des membres du groupe de parler de ça parce qu'il y a beaucoup de buzz qui se passe avec notamment le film de Wonder Woman et aussi Atomic Blonde qui vient de sortir, qu'on pourrait peut-être penser que c'est une super-héroïne en pleine action. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser avec les comics féministes. Durant les années 70, 80, on posait beaucoup la question si c'était juste des personnages féminins qui étaient personnages masculins qui étaient féminisés pour l'occasion. Comment des auteurs, surtout masculins, peuvent traduire une expérience féminine, encore plus une expérience féministe. C'est des questions qu'on va se poser ce soir avec notamment Fanny Demeul, qui est au doctorat en littérature à l'UQAM. Bonsoir, Fanny.
Bonsoir, Hélène.
Pascal Thériault, qui est au doctorat en cinéma et en jeux vidéo à l'Université de Montréal. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir, super heureuse d'être ici.
Yay! Yeah. Et Roxane Chartrand, qui fait sa maîtrise aussi en études de jeux vidéo à l'Université de Montréal. Bonsoir,
Hello.
Roxane. Et Mégane Bédard, d'habitude de l'émission, qui va intervenir.
Oui, je vais intervenir.
Tous les micros sont ouverts. Je ne sais pas
tout
pourquoi
ça va.
Ouais. Donc, on va commencer par Fanny Demeul, qui a fait une recension des personnages féminins des comics des dernières années.
Effectivement, en fait, j'ai remonté là, ma recherche à beaucoup plus que les dernières années. En fait, ce que j'ai voulu prendre comme corde d'attache, c'est vraiment tous les personnages féminins des comics qu'on peut retrouver. Donc, j'en ai dénombré 228 exactement.
Wow!
Donc,
juste
mon but, juste ça. Puis, faut dire hein, que d'emblée, je suis pas une experte de comics hein, à la base. Donc, c'est vraiment à force de vraiment faire des recherches au sens premier du terme sur Internet, de fil en aiguille, arriver à vraiment trouver cette panoplie de personnages féminins-là en comics qui, on le devine, sont souvent des super-héroïnes.
Mais je pense que t'es devenue une experte, là.
Par la bande, oui.
On va se dire experte, là.
Par la bande, j'ai pas tout lu ce corpus-là, je dois l'avouer. Mais bon, au terme de ma recension, ce qui m'a vraiment fascinée, c'est de voir à quel point la plupart de ces super-héroïnes-là sont, comme tu l'as dit en introduction, Hélène, des personnages masculins qu'on a féminisés, ou encore autres cas de figure extrêmement récurrents. Bon, c'est souvent des héroïnes qui sont nées de la côte d'Adam, hein, donc c'est soit la fille de, soit la femme de, soit un cas de figure que je trouve aussi très intéressant, c'est la wannabe, donc celle qui veut devenir la successeur, hein, qui veut s'approprier les pouvoirs du super-héros et qui va éventuellement même hériter du costume du super-héros en question. Sinon, des cousines, hein, tous les cas de figure sont valides. Il y a toujours un rapport de filiation ou un rapport amoureux par rapport au héros. Mm-hmm. Et bon, on le devine aussi, c'est souvent des personnages féminins qui sont dans l'ombre. Hein. C'est, bon, la suite de...
Ouais.
Cependant, dans les dernières années, de plus en plus, on met de l'avant des personnages, des féminins super-héroïques uniques, hein, qui sont pas la fille de, la femme de, quoi que ce soit, qui que ce soit. Ou encore, autre cas de figure assez intéressant, assez récent, c'est les reboots comme Thor, hein, de personnages qui ont toujours été masculins, mais là, on reprend carrément le récit, la diégèse, et on assume que le personnage a toujours été féminin. Donc ça, c'est vraiment très récent, mais même très intéressant comme développement. Aussi, autre aspect qui est assez pertinent, je crois, ça a été relevé récemment dans un article qu'on va pouvoir peut-être mettre en lien sur la page de l'émission,
oui, c'est vraiment.
qui est en fait le dans la nomenclature, hein, donc les personnages masculins ont souvent un nom unique, hein, et ou sinon on va dire il va y avoir un attributif, alors que du côté des femmes ça va être lady ou girl, hein, très rarement woman qu'on a dans, il y a Wonder Woman qui n'est pas donc un dérivé d'un personnage masculin, donc qui est un cas de figure assez unique en son genre et qui porte le nom woman, mais à chaque fois qu'on est dans un personnage dérivé, donc il y a le nom girl qui vient s'apposer ou lady quand c'est quand le personnage est marié, hein, okay, à un homme. Donc voilà, c'est pas mal.
Oui, on connaît Wonder Woman, Batgirl, Supergirl, mais il y en a vraiment plusieurs autres. C'est ça qu'on oublie souvent.
Il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup aussi, puis ça sera peut-être un point à aborder, étant donné que cette recherche-là s'inscrit dans un groupe de recherche, hein, oui, dont Megan Bédard fait aussi partie, sur les franchises et leurs reprises, tout en fait les formes de transfictionnalité qu'on peut faire avec les franchises, transmédialité aussi. Donc, c'est de voir qui on a perdu aussi en bout de ligne, parce qu'il y en a des tonnes et des tas de noms aussi que j'avais jamais entendu. C'était fascinant de les découvrir, puis on voit des choses qui... On comprend un peu en les voyant pourquoi ils n'ont pas été repris. Tu sais, des choses qui ont très mal vieilli. Il y avait beaucoup... En fait, un truc qui me fascinait, c'est à quel point il y avait beaucoup d'insectes qui revenaient les comics des premières années, hein, des Ant-Man et compagnie. Il y en a quand même pas mal.
C'est fait au plan aussi dans les premières années. C'était en même temps que le cinéma de science-fiction, les histoires de science-fiction, personnages insectoïdes étaient vraiment populaires. On a vraiment perdu ça aujourd'hui. Mais c'est intéressant aussi de voir comment... dans la période plus contemporaine, toutes ces modifications-là, comme les reboots, Thor qui devient une femme, et toutes les reboots aussi, comme Batwoman, dont on lui donne une origin story, puis on lui donne une orientation sexuelle, alors qu'avant, on présupposait qu'elle était hétérosexuelle. Maintenant, Batwoman est lesbienne. Donc, il y a comme toutes ces modifications-là qu'on voit dans l'évolution des personnages de comics, qui, aujourd'hui, on dirait qu'on les utilise pour passer un message plus politique. Mm-hmm. Puis tous ces déplacements-là, justement, ont vraiment une grosse valeur politique, qu'on le veuille ou non. Là, on peut pas ignorer le fait que dans une société contemporaine, ce genre de représentation-là dans la culture populaire a une portée politique.
Absolument,
ouais. Ah oui, c'est clair.
Ouais. Le fait de remettre de l'avant, comme tu dis, des investir en tant que personnage et non pas qu'en tant que la cute sidekick du super-héros... Donc oui, absolument.
Puis justement, dans le but de pas nécessairement perpétuer le trope de girl in the refrigerator, mon anglais. La femme dans le réfrigérateur. Tu sais, dans le fond, qui utilisait les femmes dans le comic seulement pour essayer de donner une espèce de tournure dramatique à l'arc narratif du personnage masculin. Ouais. Fait que ça aussi, c'est intéressant de voir ce changement-là d'une espèce d'objet qui sert à la trame narrative masculine vers... justement une trame narrative qui est propre à ces personnages-là. Puis je me demandais peut-être que vous pouvez m'éclairer comment la féminisation de Thor dans les nouvelles franchises s'éloigne quand même du trope du personnage féminin qui est juste une version masculinisée d'un personnage masculin.
C'est une excellente question.
Mais je pense que ça s'éloigne de la version masculinisée parce que le principe est vraiment le même, mais la différence, par exemple, par rapport au trope dans la femme dans le réfrigérateur, c'est surtout que les personnages transformés ainsi ont justement ils s'associent aux stéréotypes habituellement associés au genre masculin et sont actifs, ils ont le pouvoir, comme maintenant Thor a le marteau de Thor, mais c'est une femme, mais ça ce ne sont plus des personnages passifs mais des personnages actifs.
C'est pour ça en fait que dans Wonder Woman est si importante que ça. On peut voir aussi dans d'autres médias, dans les jeux vidéo, dans le cinéma, quand il y a un personnage, une héroïne féminine qui malgré tout a quand même un pouvoir, oui elle peut reprendre certaines caractéristiques masculines, sauf que ça reste quand même un personnage tellement rare dans les paysages de la culture pop que ça, c'est super important. Et comme Megan a dit, ça a une incidence politique, en fait. Il y a une intention, en fait, féministe derrière ça. Ouais.
Ouais. Je vois ça comme une réhabilitation, là, carrément.
Réappropriation aussi. Ouais. Des icônes, puis la représentation, c'est très important. Puis je fais juste penser, on parle du film de Wonder Woman, puis je me souviens d'avoir vu passer sur Internet un tweet, puis c'est très révélateur. C'est on comprend, la personne qui faisait le tweet, je comprends pourquoi les hommes blancs sont aussi énergétiques, puis autant de confiance en eux. Je viens juste de sortir d'un film où il y a une femme qui se bat pendant une heure, puis comme je pourrais prendre le monde au complet.
Tellement. C'est vrai, puis Atomic Blonde, ben, on est allé le voir hier soir, puis c'est, j'ai eu ça, là, j'ai eu cette énergie-là.
Il y a l'énergie, il y a la confiance, il y a le... C'est ça, d'agentivité qui monte soudainement en nous, là. Donc, on peut pas nier que ce type de représentation-là change le paysage culturel, change le paysage politique, là.
Absolument. Puis on regarde des shows comme la série télévisée Jessica Jones, hein, sur Netflix, oui, ouais. Qui aborde, ben, des thèmes, je trouve, comme, qui sont liés à une écriture qu'on peut dire par une femme, tu sais. On y a quand même question de viol. Littéralement, dans Jessica Jones.
De trauma aussi.
De trauma. Donc,
il y a toute une sensibilité. C'est sûr que ça fait essentialiste là, comme discours, mais il y a la sensibilité qui est habituellement associée aux personnages féminins. Lorsqu'on leur donne la gentilité, cette sensibilité-là devient une force. Et oui, Jessica Jones vient des comics, mais ça, la façon dont elle est représentée à la télévision est vraiment différente et plus en puissance haute, empowering la version de comics qui est notamment écrite par des hommes là. Donc
ça c'est une question justement le qui réalise, qui écrit les comics. Est-ce que dans ta recension t'as aussi regardé qui écrivait les comics, Fanny?
C'est presque entièrement des hommes, une grande majorité là. J'ai pas encore sorti de statistiques ni de graphiques là à partir de mes données, mais de visu, je pourrais dire 95%. Là,
c'est quand même récent que les femmes investissent justement l'espace des comics, qui était, on va pas se le cacher, presque exclusivement masculin.
Mais en fait, l'espace mainstream plutôt, parce que il y a quand même eu, j'en connais pas tant, mais il y a quand même eu une scène de comics plus underground faite par des femmes aussi.
Oui.
Mais oui, la scène plus mainstream, c'était juste très important.
Des grandes compagnies, là, Marvel, DC,
exact.
Dark Horse, ces compagnies.
Oui.
Mais oui, c'est ça, la question se pose, là, qui écrit. On le voit aussi dans les représentations des comics, le discours est pas pareil lorsqu'il y a un personnage féminin écrit par une femme ou un personnage féminin écrit par un homme. Il y a des choses qui changent.
Absolument. Oui. Je parlais un petit peu plus tôt de la série Odyssey, qui est en fait une espèce de version gender flipped de l'Odyssée d'Homère, qui est absolument formidable. On en parlait tantôt avec Fanny. C'est quelque chose de beau à regarder. C'est presque, tu sais,
c'est à voir, littéralement.
Absolument. C'est une espèce de version psychédélique dans l'espace de l'Odyssée d'Homère.
Est-ce que ça a été fait récemment?
Ça a été fait récemment, je dirais...
Peut-être 2012-2014,
Ces
eaux-là.
Ouais. Fait que c'est super récent. Puis ce qui arrive, c'est que c'est uniquement des personnages féminins. En fait, tous les hommes ont été éliminés par Zeus.
C'est un panthéon féminin.
Exactement. Zeus, qui est une femme, en fait, dans Odyssey, voulait pas que les femmes puissent se reproduire et avoir des enfants parce qu'elle voulait pas que, justement, un enfant de Zeus puisse la tuer, elle également. Donc, elle élimine tous les hommes. Il y a cette espèce d'idée-là que c'est seulement des personnages féminins et des sébex, là, c'est des espèces d'hybrides hommes-femmes, mais qui peuvent pas se reproduire, qui sont aussi dans cet univers-là. Mais ça paraît que c'est écrit par des hommes quand tu le lis. Okay. Il y a une espèce une espèce de rage très, très typiquement masculine qui est investie dans ces personnages féminins-là, que j'ai trouvé un peu dénué de sensibilité.
Ben, je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça, Roxane, mais je lisais, j'avais l'impression de voir une bande d'Amazon dépeinte par des hommes comme on aurait pu en voir comme dans l'imaginaire de la Grèce antique, tu sais, un peu effrayante, disons, ou un peu antagonisante. Je sais pas comment vraiment l'exprimer, mais ouais.
C'est antagonisante, je pense que c'est vraiment le mot. Odyssée, qui est la protagoniste du premier opus, c'est un homme avec des seins. Je vais le dire comme ça, là. Elle a des réactions qui sont typiquement masculines, puis c'est pas nécessairement que c'est une mauvaise chose, c'est juste que ça paraît que c'est un homme qui a écrit ce personnage-là. Puis c'est aussi... C'est très, très sexualisé, et pas que ce soit une mauvaise chose non plus, mais je pense qu'il y a une manière de faire des personnages féminins qui vivent leur sexualité pas de manière masculine également. Je pense à des comics comme Bleach Planet puis Rat Queen, dont je vais parler un peu plus tard, qui font ça super bien. Pour moi, c'était pas vraiment le cas dans Odyssey.
Parce que c'est plus comme objectifié?
Parce que c'est plus objectifié. Puis ça enlève rien aux illustrations qui sont absolument formidables. Ça n'a aucun sens. C'est époustouflant. Mais ça paraît que c'est objectifiant comme regard. Ça paraît que la sexualité est objectifiée. Il y a quelque chose qui me dérange. Puis Je pense pas personnellement que des hommes ne peuvent pas écrire des personnages féminins comme il faut. Je pense pas que les hommes peuvent pas écrire des comics féministes non plus.
Un exemple, ce serait George R. R. Martin et ses personnages féminins qui sont absolument pleins de qui sont complexes et complets.
Ils sont très incarnés.
Et qui est ouvertement féministe aussi, George Martin.
C'est pas possible.
Non, c'est ça. Puis je pense aussi à Paper Girls dont Pascal va parler tantôt. On a des personnages féminins qui sont des jeunes filles qui sont absolument fascinantes, mais qui ont été aussi écrites par des hommes. Donc, il y a des possibilités, mais je pense que ça se lit, ça se voit quand c'est écrit par des hommes. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais je pense que c'est quand même visible.
C'est un autre point de vue qu'on a eu souvent, et là, c'est le fun d'avoir aussi les points de vue des femmes.
Exactement.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment quelque chose de la diversité, finalement, qui manquait et qui est plus à l'honneur quand il y a des personnages féminins plus complexes, voire féministes, et des auteurs aussi qui se disent féministes, qui écrivent. Est-ce que il y avait d'autres choses intéressantes dans la recension des personnages?
Pour moi, ça va pour l'instant, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont me revenir, des petites remarques en cours de route. Je laisserai peut-être la parole.
Oui, on va parler en fait... Pascal, tu veux parler de Paper Girls, si je ne me trompe pas.
Oui, en fait, je suis assez nouvelle dans la scène de comics, si on veut. C'est Roxane, ici présente, qui m'a initiée à Rat Queens il y a quelques mois. Puis Megan, en fait, aussi avait conseillé Paper Girls. Donc, suite à leur suggestion, j'ai commencé à lire ça, puis j'ai vraiment... vraiment aimé Paper Girls, en fait, donc je voulais en parler aujourd'hui. En fait, Paper Girls, c'est un comic qui par Brian Vaughan, je prononce probablement
Vaughan.
Vaughan, merci, c'est ça. Mais,
c'est difficile, ces mots-là, en anglais.
Oui, c'est ça, qui a travaillé sur les bandes dessinées de Buffy. Il a fait Ex Machina aussi, à ne pas confondre avec le film. Il a fait la série Saga aussi. Ouais.
C'est vraiment bon, ce gars.
J'ai lu le premier, ça fait très longtemps, quand je travaillais dans une librairie, puis j'ai pas donné suite encore, mais oui.
Il est sur ma table de chevet, Saga, là, il est dans mon...
Puis le dernier trade paperback a gagné le prix, j'ai oublié, c'est quoi, le prix Eisner, ça se peut-tu? Donc, puis ça a l'air que c'est comme... l'apogée de la série en ce moment, là, fait que ça vaut la peine de continuer.
Ah, cool. Donc, Paper Girls, en fait, est une série qui a commencé en octobre 2015 avec 15 numéros divisés en 3 volumes. Le volume 3 est sorti, je pense, aujourd'hui. Donc, j'ai pas le temps...
Aujourd'hui
ou le 9 août, je sais pas trop. Donc,
non, c'est ça. C'est soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine.
Ouais, c'est ça. Donc, publié par Image Comics. Mais en fait, à la sortie, on comparait Paper Girl au film Stand By Me, qui rencontre War of the Worlds. Donc, c'est de la science-fiction, un mix de science-fiction, de mystère, de rite initiatique aussi. Mais j'ajouterais même qu'on peut voir des parallèles à Stranger Things, par exemple, qui justement avec une ambiance similaire, avec les références des années 80. Un peu aussi, on peut même penser au film de Goonies, qui a des parallèles, en fait, avec le Paper Girls. Donc, en fait, Paper Girls, ça commence en Halloween, le lendemain d'Halloween 88, près de Cleveland, une petite ville en Ohio. Il y a 4 livreuses de journaux de 12 ans, en fait, qui décident de s'allier ensemble pour passer les journaux le lendemain matin de l'Halloween. Donc, on a Erin, la protagoniste, qui vient tout juste de rejoindre la bande. Il y a Mackenzie, qui semble être la plus tough, si on veut, de la gang. Il y a KG et Tiffany aussi, qui sont deux jeunes adolescentes. Donc, elles décident de faire leur route ensemble par souci de sécurité, entre autres contre les garçons adolescents qui sont un peu menaçants. Principalement. Donc, leur route est rapidement interrompue quand il y a des créatures qui sont peut-être des extraterrestres, on le sait pas trop au début, qui envahissent la ville puis qui font disparaître tous les habitants de la banlieue, sauf nos 4 Paper Girls. Donc, sans trop vendre de punch, on peut se trouver, en fait, on remarque qu'on arrive dans une guerre entre adolescents et adultes venus du futur, et les 4 Paper Girls finissent par voyager dans le temps et trouvent, en fait, aussi un artefact qui a le signe de Apple dessus. Donc, plein de mystères. Je veux pas trop vendre de punch non plus aujourd'hui.
Faut lire.
C'est des histoires de voyage dans le temps. Fait que c'est facile d'avoir des punch, là.
Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le comic, en premier lieu, c'est les personnages. Mm-hmm. Donc, on a ça, 4 protagonistes féminins. Pas un, pas deux, c'est vraiment, c'est 4 femmes, 4 filles, en fait, je dirais, qui ont toutes des personnalités bien définies. Et en particulier Mac, que j'ai mentionné, qui est un peu la fille cool, qui a de l'attitude.
Rebelle,
c'est ça, en fait. Ouais, mais elle vient d'une famille pauvre. Mm-hmm. Puis elle sait, en fait, un peu plus loin, elle essaie de dealer avec une révélation assez importante quand les filles vont dans le futur. Il y a plein de personnages. Les personnages sont assez diversifiés. Il y a deux filles racisées. Mais en fait, elles jouent pas l'asiatique de service ou la noire de service, si on veut. C'est pas, elles sont pas des token characters racisés. Mais bon. Sont pas stéréotypés, sont loin de la demoiselle en détresse, par exemple, sont pas sexualisés non plus, mais en étant actives, on voit quand même qu'elles ont des problèmes, de la difficulté. Justement, je pense que c'est Tiffany, à un moment donné, aussi, qui comprend pas ce qui se passe, puis elle commence à pleurer, il y a aucune honte à ça non plus. C'est ça. En fait, ça reste quand même des jeunes filles de 12 ans, elles sont pas sexualisées, donc... Et même ce que j'ai trouvé intéressant, c'est même dans leur habillement, c'est tout des vêtements évidemment des années 80, mais qui leur représentent vraiment, qui ajoutent à leur personnalité. C'est ça. Puis aussi, il y a plein de détails, surtout au début du premier livre, du premier comic, en fait, qui ajoutent à leur caractérisation. On voit la chambre de Erin, la protagoniste, il y a plein de jouets, il y a des posters aussi. Donc c'est des petits clins d'œil, en fait, mais qui ajoutent vraiment à l'univers. Et justement, j'ai vu un commentaire sur en faisant des recherches sur un blog que contrairement à plein de comics où les femmes semblent avoir sauté la puberté, on peut penser par exemple à Spider-Man, l'exemple que l'auteur donnait, il y a Gwen Stacy qui est adolescente mais qui est super super chicks en fait. Elle a pas passé l'espèce de période awkward où le monde se cherche. Donc les jeunes filles qui ont 12 ans sont pas en fait sont vraiment sont
c'est pas des femmes.
Non, c'est ça, c'est pas des femmes. Et le comique en fait c'est pas non plus de les rendre sexualisées, c'est pas de les rendre trop belles si on veut ou trop
vieillir trop.
C'est exactement. Un souvent avec les trucs de, surtout les comics de super-héros, ça me fait penser à récemment, je pense que c'est l'année dernière, il y avait une page couverture pour un comics qui devait être faite parce que avec Iron Man, il y avait une jeune fille de 14 ans qui devenait Iron Man, donc une jeune noire en plus. C'est très cool. Puis il y avait un artiste qui est très reconnu, je me souviens plus de son nom, pour ses images très sexualisantes et de femmes très musclées qui avait fait la couverture, puis ça l'avait été refusé parce qu'il y avait sexualisé une jeune fille de, je pense qu'elle avait 14 ans dans le comics. Mm-hmm. Ça c'était comme il y a déjà des dérives là-dessus. Fait que c'est fun de voir au moins un comics qui fait pas ça, puis qui va un petit peu plus vers justement la personnalité des personnages.
Parce que ce qui est intéressant avec Paper Girls, c'est que, puis je pense en général, c'est que dans Paper Girls, la sexualisation ou l'idée de donner une sexualité à ces jeunes filles-là est même pas présente. C'est pas un sujet qui est abordé, ouais. En tout cas pas pour le moment. En passant, le troisième volume sort le 8, juste pour précision. Mais c'est pas abordé, peut-être que ça va être abordé dans le futur, mais c'est même pas en question.
Ils sont dans une crise spatio-temporelle, en fait. Donc, ils ont pas vraiment le temps. C'est ça.
On essaie de sauver l'univers.
En essayant de comprendre ce qui se passe, parce que même dans le tome 2, elles sont encore en train de se demander qu'est-ce qui arrive, qui sont les méchants, qui sont les gentils, en fait, aussi. Oui, continue.
Non, c'est ça. Donc, il y a même pas la question de peut-être sexualiser ces personnages-là, parce que c'est des jeunes filles de 12 ans.
C'est rafraîchissant pour une fois. Et
c'est
vraiment horrible à dire en ce moment. C'est rafraîchissant qu'on ne sexualise pas des jeunes filles de 12 ans.
Yeah boy. Oh mon Dieu, que ça fait mal au cœur. Hein? Mais non, c'est ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié de Paper Girls, que je me sois même pas posé la question pendant que je le lisais. Alors qu'en général, je pense que c'est quelque chose qui nous saute au visage un peu, qu'on nous impose un peu de connaître la sexualité des personnages.
Ouais. Mais Image Comics est vraiment... Je sais qu'il y a déjà eu il y a quelques années, une émission Pop en Stock sur Image. Fait que je vous invite à aller l'écouter si jamais vous voulez en comprendre plus sur cette maison d'édition-là. Mais est vraiment à l'avant-garde, justement, dans la production de contenu comme Bitch Manette, Pepper Girls... j'ai lu, je pense que Lumberjane aussi, c'est...
Lumberjane, c'est Image aussi.
Oui, c'est ça, dans Image Comics. Donc, il y a vraiment toute une collection de comics qui se veut plus progressiste et moins ancré dans les stéréotypes. C'est super rafraîchissant.
Image, c'est aussi eux qui font Odyssey, je pense.
Okay.
Je pense que c'était ça un petit peu mon... En fait, c'est drôle, tu sais, quand je magasine des comics, je suis allée l'autre jour, puis je regarde un peu si c'est Image. puis je sais que il y a des grandes chances que ce soit plaisant comme lecture. Fait que ça, c'est, ça aussi, c'est vraiment cool d'avoir une espèce de pas de valeur sûre nécessairement, mais tu sais, d'aiguillage. De, je sais qu'en prenant un comic de Image, je sais que ça va être peut-être un petit peu plus proche de ce que je veux voir représenté.
Puis on sait que Marvel aussi a pris le tournant plus progressiste, parce qu'au début, ça coûtait un peu pour leur vente, mais récemment, ils ont repris les devants par rapport à leur compétiteur principal, DC Comics, qu'eux, ils n'ont pas décidé. Ils ont décidé de garder, de rester plus conservateurs à leur marché habituel, alors que Marvel a essayé des nouvelles affaires comme avec le Iron Man, avec Thor, avec la nouvelle Miss Marvel, qui est Kamala Khan, donc une jeune adolescente musulmane, c'est vraiment très bon, là, je vous le conseille. Fait qu'eux autres, ils ont pris des risques, et ça l'a payé au final, parce que ça l'a attiré justement un nouveau marché qui était peut-être pas avant intéressé aux comics, à s'intéresser à ça. Et ça, les clients, donc ceux qui lisaient déjà des comics de Marvel, sont initiés à un discours qui est plus progressiste, moins stéréotypé. Là. Donc, il y a juste des avantages à ça.
Juste des avantages. Politique, sociale, économique.
Dans Paper Girls, je vois que c'est... Vaughn ici qui je suis sur le site web, je regarde ça. Et est-ce que Vaughn dans Saga notamment, je me rappelle d'avoir déjà vu, j'ai lu quelques pages de Saga à une certaine époque. Est-ce que Saga comme était féministe, est-ce que comme une tradition lui-même d'écriture féministe ou c'est pas.
Mais je sais pas si c'est dans les préoccupations principales de Brian K. Vaughn, peut-être, là, je le connais pas. J'ai pas lu d'article
selon
ou
selon ses discours, disons.
Oui, c'est ça, mais définitivement, il y a une volonté d'avoir des personnages intéressants, first. Moi, on compare souvent Saga à ça, Game of Thrones dans l'espace, fait que. Oui, nécessairement, il va y avoir des personnages féminins très, très intéressants qui vont sortir de ça, mais il n'y a pas juste Brian K. Vaughn non plus qui travaille là-dessus, il y a d'autres personnes, notamment pour les illustrations. Donc, il ne faut pas oublier qu'un comic, c'est pas que de la narration, donc il y a toute une équipe, et surtout les illustrations jouent beaucoup aussi sur le discours, puis la façon dont on fait les pages. Donc, tu parlais de Odyssey tantôt, donc il y a quelque chose de vraiment propre au médium de la bande dessinée qui ressort de ces comics-là, là, et aussi avec Pitch Planet.
Donc, c'est ça dont je voulais parler peut-être tantôt, mais peut-être que ça vaut la peine qu'on en parle maintenant, parce que dans Pitch Planet, il y a la représentation, en tout cas dans le second volume. En fait, la représentation des corps féminins a été volontairement designée par l'auteur qui est Kelly Sue DeConnick, puis l'artiste qui est Valentine DeLandro. Ça a été volontairement dessiné de manière à ce qu'on ne sexualise pas les corps féminins. C'est quelque chose que j'ai trouvé absolument formidable parce que, bon, Bitch Planet, faut quand même...
Qui est aussi de Image Comics.
Qui est aussi de Image Comics. Honnêtement, Image Comics, comme je dis, c'est ma valeur sûre, mais Bitch Planet, en gros résumé très rapide, c'est un peu une espèce de gladiateur dans l'espace sur une espèce de colonie, prison.
Mais ça fait un peu... j'ai oublié le nom... La série sur Netflix.
Orange is the New Black.
Ouais, c'est Orange is the New Black dans l'espace avec des gladiateurs, genre. Fait que c'est assez spécial. Et donc, étant donné qu'on est dans une prison, un milieu carcéral, intersidéral, nécessairement, à un certain point, on va voir les femmes qui sont dans la douche, qui vont faire des tests médicaux. Et donc, l'important pour les auteurs, c'était justement de ne pas montrer, de voir les corps comme quelque chose de normal. Et non pas quelque chose comme des corps.
Et non pas comme des objets sexuels.
Et un truc qui est encore plus intéressant, c'est que dans le second opus, le second TP de Bitch Planet, on se rend compte qu'en fait, il y a une seconde prison sur la Bitch Planet qui est en fait réservée aux gens qui ont commis une offense grave, qui est celle de ne pas se conformer au genre qui leur est assigné à la naissance. Oh. Et donc, il y a une prison en entier qui est dédiée aux personnages qui sont des femmes trans. Et quand ils ont dessiné... en fait, la première fois où on voit les femmes trans dans cette prison-là, ils sont avant leur rendez-vous médical où on voit très bien leur corps. Ils sont dans une espèce de vestiaire et on voit tous ces personnages-là. Et ce que moi, j'ai trouvé absolument formidable puis qui m'a vraiment touchée, c'est... ils ont engagé des consultantes pour s'assurer que la représentation des personnages trans était adéquate et respectueuse. Mm-hmm. Et ils ont dessiné les corps féminin. Et non pas un seul corps féminin. Oui, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc, on voit des personnages qui n'ont pas eu de chirurgie, des personnages qui sont sur la thérapie hormonale, des personnages qui ont eu des chirurgies de changement de sexe. Puis, c'est pas important, c'est pas l'avant-plan. On voit pas ça comme quelque chose qui est normalisant ou qui est uniformisant, tu sais. On représente la diversité des corps féminins. Et ça, j'ai trouvé ça absolument formidable. C'est un peu là où je voulais en venir avec...
Le médium de la bande dessinée permet ça. Ça permet de montrer des choses, mais sans avoir les commenter. Tandis que, par exemple, dans un médium plus narratif, comme le roman, si on veut décrire, il faut commenter souvent en même temps. On décrit, mais on choisit la description.
Déjà, dans la description elle-même, intrinsèquement, il va y avoir un commentaire poser, même si on essaie d'avoir un degré zéro de l'écriture,
juste dans le choix des mots, il va avoir le commentaire, tandis qu'ici, on a la représentation d'un côté, et on a du texte, ou pas de texte, de l'autre côté, qui peut soit être une intériorisation, une narration, ou quelque chose qui a pas du tout rapport, c'est ça c'est propre au médium, puis c'est ça qui ouvre des potentialités qu'aucun autre médium peut faire. Et le comics féministe joue là-dessus, ça c'est sûr et certain. C'est ça qui est très, très intéressant. Surtout en Bitch Planet aussi, il y a des publicités dans les comics, donc des fausses publicités créées qui ressemblent beaucoup à des publicités qu'on voit dans les petits feuillets, là, d'habitude. Mm-hmm. Surtout des vieilles publicités. Puis, tu sais, ça joue un peu là-dessus. Je sais que toi, Roxane, la première fois que tu l'as lu, t'avais comme passé par-dessus. T'as fait comme, une autre pub.
Ben, c'est ça, la première fois que j'ai lu Bitch Planet, la première pub, j'ai juste vu, j'ai fait comme, tu sais, il y avait toujours des espèces d'affaires, genre des mail-in, tu sais, envoyer un chèque de 3$, puis on va vous envoyer une cochonnerie. fait que là, j'ai vu ça. Il y a vraiment ce format-là. Puis, j'ai fait comme, puis là, je suis passée à l'autre partie. Puis là, quand je suis arrivée à l'autre d'après, j'ai vu une espèce de pub qui, en fait, avait le même nom qui était dans la première pub. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, il y a quelque chose là. Puis, dans le fond, tu te rends compte que ces pubs-là, c'est en fait les gens dans la prison qui se parlent entre elles. Il y a des messages codés. Okay.
Puis c'est aussi des fausses publicités.
Il y a aussi des fausses pubs, oui.
L'univers de Bitch Planet, c'est dans un univers dystopique où, en fait, c'est dystopique, mais ça ressemble un peu à l'univers. Maintenant, c'est vraiment c'est inquiétant. Mais c'est ça.
Où, c'est fictionnel, mais pas tant.
Justement,
un peu comme
la masculinité puis le paternalisme a pris beaucoup plus de place et vraiment plus...
Exacerbé,
mais il y a beaucoup de contrôle sur les femmes. Les femmes peuvent rien faire. Ils peuvent pas sortir seules. Ils peuvent pas avoir de travail autre que ce qu'on peut leur assigner. Donc, c'est vraiment plus resserré là-dessus.
C'est le respect des rôles genrés des années 60, à peu près. Et en fait, c'est le mot de la loi. Donc, si tu ne respectes pas le rôle genré qui correspond aux années 60, donc, comme tu disais, là, tu en fait, tu respectes ton mari, tu vas pas au travail, tu restes à la maison.
Les vêtements.
Tu dois être belle, tu dois prendre soin de toi aussi.
Exactement.
Toutes tes injonctions.
En fait, tu dois être mince pour les yeux de l'homme.
Faut être
attrayante. C'est ça. Puis quand tu respectes pas toute cette panoplie de règles-là assignées au genre féminin, tu es considéré comme étant non-compliant. Et envoyé je me souviens plus du nom qui donne l'avant-poste auxiliaire, le Auxiliary Compliance Outpost, mais qui est appelé par la population le Bitch Planet, parce que quand t'es ce qu'on considère comme étant une bitch aujourd'hui, c'est-à-dire quand tu réponds à un homme avec affirmation dans ta voix, t'es considéré comme non-compliant. Donc, on envoie toutes les bitches là-bas.
Ouais, à la prison. Mais c'est ça que ça fait les publicités, ça donne juste d'autres dimensions, une dimension plus réaliste, puis une profondeur à l'univers de Bitch Planet qu'on voit dans les autres cases, là. Donc, puis il y a quelque chose de très satirique, c'est vraiment très drôle, mais aussi très satirique, très humour noir là-dedans, là.
Ouais, c'est ça, on regardait un petit peu tantôt dans le second opus de Bitch Planet, il y a une pub, une page en entier qui est en fait du maquillage. c'est le Misandry Makeup, je pense.
Ouais, exact.
Qui était justement, c'est une page au complet sur vous vous maquillez pour les hommes, vous vous mettez du eyeliner parce que vous voulez ressembler à des chats, parce que les chats, on le sait tous, c'est féminin. Fait qu'il y a toute cette idée-là aussi qui vient ajouter à la profondeur de l'univers, parce que Bitch Planet a vraiment clairement un message féministe, là, je vais pas trop
l'expunge,
là, c'est très, 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 très explicite.
Si je regarde la couverture du premier, c'est carrément une fille... en fait, l'ombre d'une fille qui fait des « fuck you ».
Ouais. Puis en haut, c'est écrit « Are you woman enough to survive? »
C'est pas mal ça.
Ce qui est intéressant, je trouve, avec les annonces, les publicités, c'est que on dirait que ça ouvre aussi la diégèse, ça inclut la lectrice. Ça fait comme une adresse un peu.
Oui.
Exact. Mm-hmm.
Mais en fait, à la fin aussi de Bitch Planet, il y a une question proposée par les auteurs, pour... qui donc pour faire réfléchir la lectrice, le lecteur, suite à la lecture, en fait, de Bitch Planet, qui pose des questions sur le féminisme. Là, j'en ai plus pas en tête, mais Roxane...
Ben là, je veux dire, dans le premier opus, il y a beaucoup de questions, là, tu sais. Il y a des questions qui, par exemple, demandent est-ce que le setting... La science-fiction permet justement de comprendre un peu mieux la lutte féministe dans ce contexte-là. Puis on parle un peu plus loin de féminisme intersectionnel, des théories de Kimberly Crenshaw. Donc c'est quelque chose qui est très explicite, non seulement dans la lecture, mais aussi après la lecture. On a un accompagnement au sein de cette réflexion-là que j'ai trouvée particulièrement intéressante. C'est vrai, c'est important de le mentionner.
Est-ce qu'il y en a beaucoup des genres de post-faces comme ça, de post-script aux comics
En général, il n'y en a pas vraiment.
C'est quand même spécial.
Exactement, c'est très... Bon, en fait, moi, j'ai trouvé ça super unique comme démarche. On pose la question, qu'est-ce que ça veut dire de dire que ces femmes-là sont non-compliant? Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de la BD? Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire dans notre société actuelle? Il y a cette question-là, tu sais, textuellement.
Ouais, ça ressemble beaucoup, puis c'est assez premier degré pour que tout le monde... Ça ressemble beaucoup à au livre qu'on avait, par exemple, dans les cours de français au secondaire, de « Ah, oh, on a lu le livre, puis là... »
Des pistes de réflexion,
comme ici, à la fin du deuxième volume. C'est comme « Ah, il y a plein de représentations de femmes cis et de femmes trans, dans le comics, puis c'est laquelle vous a le plus marqué et pourquoi.
C'est vraiment très participatif,
puis ça nous permet de... ça nous prend par la main pour nous inviter à réfléchir à la lecture, même si on n'aurait peut-être pas réfléchi, on aurait peut-être juste pris ça comme un comics de science-fiction à la base, mais l'ouvrage nous invite à réfléchir quand même, ce qui arrive très rarement, je pense.
Il y a quand même une certaine volonté d'éducation sur les luttes féministes, derrière le comique.
Oui, absolument. Non seulement avec la diversité des personnages, mais aussi avec l'émergence d'un groupe féministe au sein de la diégèse. On a vraiment... C'est pas nommé, je pense, féministe.
Mais il y a une publicité aussi à un moment donné. C'est Is she a feminist? Puis là, il y a une femme comme en habit de travail, comme de mécanicienne. Puis là, il y a comme les signes. Ah, elle porte des lunettes. Alors, elle se prend une scholar. Puis.
À ses pensées, c'est mauvais.
C'est ça. Je pense que c'est dans le deuxième.
Oui, c'est dans le deuxième, je pense. Dans le premier, c'est pas mal plus des pubs classiques. En tout cas, Bitch Planet est vraiment pour moi l'exemple parfait du comic féministe, non seulement par le contenu, mais aussi par l'invitation à la réflexion et par son intersectionnalité.
Définitivement.
Puis, bon, encore une fois, c'est l'auteur, c'est une femme. Femme blanche, mais l'illustrateur est un homme noir. Donc, il y a quand même cette espèce de...
C'est tout le temps le même illustrateur?
Pour le moment, pour ces deux, ces deux volumes-là, oui, c'est le même. Alors que pour Rat Queens, par exemple, ça change à chaque TP. Oui. Exactement. Mais non, c'est ça, il y a vraiment une volonté de... Comme je disais tantôt, ils ont quand même engagé des consultantes au lieu d'y aller un peu sur le tas puis d'essayer de, eux, en tant que personnes blanches, de donner leur impression de ce que c'est d'être une personne noire. Ils ont vraiment engagé des consultantes pour aller travailler là-dessus.
Dans le processus de création même, il y a une démarche féministe, ce qui fait qu'on pourrait, si on essaie de qualifier c'est quoi un comics féministe, moi je dirais Bitch Planet, c'est vu que ça a une visée justement féministe, nécessairement ça en est un. On a souvent dit, il y a eu beaucoup de commentaires, surtout pour les films, là. Ah, mettons, Mad Max, c'est un film féministe. C'est pas un film féministe, Mad Max. C'est un film avec des personnages féminins.
Mais on peut l'interpréter de manière féministe.
Oui,
c'est une question d'interprétation.
C'est ça, il y a une question d'interprétation, mais il y a aussi la question de est-ce que c'est ça le but du film? Est-ce que c'est ça la visée des créateurs?
Mais c'est certainement pas une volonté féministe didactique qu'on peut retrouver, par exemple, dans Bitch Planet,
c'est sûr qu'il peut avoir
dans Mad Max.
C'est parce que, tu sais, moi, je vois toujours une espèce de danger quand même à aller dans la question de l'intentionnalité, mais je pense que c'est important dans ce genre de démarche-là d'aller voir du côté de la démarche.
Il n'y a pas juste ça. Ils sont pas dans les trade paperbacks, mais quand on achète les feuillets à 5 $, il y a à la fin de chacun, il y a une interview avec les auteurs.
Oui.
Donc, qui parlent de leur démarche créatrice, qui justement, ils réfléchissent à ce qu'ils font, puis ils invitent à réfléchir. Donc, il y a l'intentionnalité là est présente même dans le volume, dans l'ouvrage.
Oui. Puis je pense que je lisais une entrevue avec De Koenig justement qui disait que pour elle, ce qui était important afin de faire un comic qui était véritablement féministe, c'était de pas représenter uniquement son expérience à elle en tant que femme, puis de pas tomber dans le piège un peu de l'autofiction là. Et ce qu'elle essayait de faire, justement, c'était d'aller, de s'éloigner un peu de la manière dont elle se représenterait dans les comics pour essayer d'aller chercher une espèce de spectre un peu plus large de ce que c'est d'être une femme. Qu'est-ce que c'est la féminité? Qu'est-ce que ça fait d'être une femme qui veut pas nécessairement être féminine? Comment on fait pour s'extirper de ces conventions-là? Fait qu'il y a toujours eu cette espèce de volonté-là de sortir justement du piège de l'autofiction, là, pour De Koenig, ce que je trouve qui est super intéressant, étant donné que ça se reflète tellement bien dans la manière dont les comics sont écrits.
Mais en fait, ça m'amène à la question, est-ce qu'il y a beaucoup de comics féministes de ce genre-là, du genre de Bitch Planet, parce que c'est en faisant encore une fois des recherches un peu sur Paper Girls, je suis tombée sur une entrée de blog faite par une artiste de comics qui justement déplorait qu'il n'y avait pas assez de comics féministes, et elle a pas mentionné spécifiquement Bitch Planet dans son article, mais c'était dans les images, donc je pense qu'elle insinuait que Bitch Planet n'était pas féministe à son goût. J'ai résumé vraiment rapidement, mais en fait, l'auteur parlait que les comics féministes des plus underground des années 70, il y avait vraiment une écriture irrévérencieuse, un art riche, des revendications sur le corps féminin quant à la sexualité, à l'avortement par exemple. Donc il faisait très féministe de deuxième vague, évidemment, dans les années 70. Donc il y avait des ça semblait informatif ou éducatif. Si on va dans les années 90, il y a plutôt des comics plutôt punk, encore une fois un peu plus underground, qui parlaient beaucoup de identity politics et de sexualité aussi. Mais en fait, l'auteur déplorait qu'il n'y avait plus cette intensité-là en ce moment dans les comics actuels. En fait, les comics actuels semblaient moins radicaux qu'à l'époque, moins révoltés. Et on parlait aussi de d'histoires personnelles des auteurs, des femmes, en fait, qui sont racontées soit avec légèreté, avec humour, qui s'insèrent vraiment dans un cadre personnel plutôt que de s'insérer dans une lutte plus large. Je pense à This One Summer, par exemple, qui traite de fausses couches, entre autres, et aussi un peu, encore une fois, un rite initiatique de jeunes adolescentes et une adolescente qui comprend finalement que sa mère a subi une fausse couche récemment, il y a un an ou deux, je pense. Donc c'est ça, ces histoires personnelles-là sont quand même racontées avec légèreté plutôt qu'avec colère. Il y a un manque d'intersectionnalité beaucoup. C'est ça, encore une fois, des luttes individuelles qui s'insèrent pas dans un cadre plus large, et ça demeure quand même très de très classe moyenne. L'auteur parlait du comic Not Funny Haha, je pense, dans les années 2010, qui traite d'avortement dans deux milieux différents, donc le milieu rural, le milieu, la ville aussi. Mais ça, ce comic-là prenait pas en compte qu'aux États-Unis, l'avortement reste quand même très difficile d'accès, en particulier pour les femmes qui ont un faible revenu, qui peuvent pas quitter le travail pour une journée ou deux, justement pour
aller dans un autre état.
Exactement. Mm-hmm. Donc ne pas reconnaître les droits à l'avortement sont menacés rend le comic moins politique, moins féministe. En fait, je suis un peu l'avocat du diable parce que je suis pas d'accord avec ce que cette femme-là raconte et essayait d'exprimer, en fait, nécessairement. Par exemple, moi, je pense que c'est ça, Bitch Planet.
C'est ce que je m'en allais dire, c'est que toutes les critiques que cet auteur-là fait, pour moi, sont adressées dans Bitch Planet.
Mm-hmm. En même temps, il n'y a pas que Bitch Planet, le fait que ça, c'est un gros problème, surtout dans le milieu d'édition, puis c'est très présent dans le milieu des zines. Il y a beaucoup l'intersectionnalité, parce que quand on fait des zines, tout le monde peut y avoir accès, puis ça, c'est un coût moindre, puis souvent c'est en ligne aussi, sur des blogs, sur Tumblr et compagnie. Mais il y a un problème dans le milieu d'édition où on donne pas la voix à des expériences individuelles de personnes racisées ou de personnes trans. Mmh, mmh, mmh. On donne la voix à des personnes souvent très blanches, qui viennent à la classe moyenne. Fait que c'est sûr que, moi, je pense que dans l'autofiction, il y a un moyen de faire une revendication à partir d'une expérience personnelle, mais c'est sûr que si on voit juste l'expérience personnelle d'une couple de femmes blanches de la classe moyenne, c'est un peu lacunaire de ce sens-là. Mm-hmm. Je pense que la critique, ça devrait être moins adressée aux autrices que au milieu d'édition qui les publie.
Ouais, c'est un problème, je trouve, qu'on a dans les autres milieux d'édition aussi, de fiction en général.
Pas juste les maisons d'édition,
mais
milieu tout,
littéraire,
tout
carrément, poésie, roman.
Puis à l'inverse, est-ce que l'industrie serait très rapide à qualifier certaines œuvres de féministes? Par exemple, Paper Girls, il y a quatre femmes, quatre jeunes filles principales, donc c'est une œuvre féministe. Dès qu'il y a une femme, est-ce que c'est souvent qualifié de féministe? Alors que,
ils disent que Ghostbusters, le reboot, c'est féministe, mais c'est juste parce qu'il y a quatre femmes, là, arrêtées.
Ouais. Donc, en fait, est-ce que ce serait plutôt une intersecté économique aussi? S'il y a une certaine niche qui essaie de rechercher, c'est des œuvres féministes.
Mais définitivement, le progressisme est à la mode.
Ouais, exact.
Ça vend, mais il y a aussi le problème à qualifier. Moi, je suis pour célébrer tous les petits pas que l'industrie fait, parce qu'il y en a beaucoup. Ça va très, très lentement, mais en même temps, on peut pas dire qu'un film avec plus que deux personnages féminins, un film qui passe le test de Bechdel n'est pas nécessairement un film féministe. Je pense que pour être féministe, il faut avoir une volonté politique, révolutionnaire. Il faut qu'il y ait un message qui veuille passer.
Faut qu'il y ait un engagement critique, je trouve, à un moment donné ou à un autre. Puis, pour revenir sur le name tag féministe, hein, dont Andy Sisler parle dans Pop Feminism, qui est partout un peu pour vendre, tu sais, on la pose très vite. Alors que, en vérité, bon, il n'y a pas grand chose qu'on creuse un peu autrement que la présence de femmes qui témoignent qu'on a vraiment pas encore beaucoup ce genre d'œuvres-là, dans le fond. Au fond, c'est plus ça le constat qu'on peut.
C'est ça, on peut les compter quasiment sur le doigt d'une main. Les œuvres populaires qui font ça, là.
Mais je me demande quand même si, est-ce que, parce que tu disais, il doit avoir une volonté politique révolutionnaire, est-ce que ça doit vraiment se retrouver nécessairement dans l'arc narratif, par exemple?
Non, mais par exemple, on n'a pas encore parlé de Rat Queens, mais
non,
ça, on peut en parler, mais toute l'irrévérence des personnages veut définitivement.
OK, pour toi, c'est ça.
Oui.
Ouais, OK,
il y a une volonté, là. C'est sûr que Charlize Theron dans Atomic Blonde ou dans Mad Max est badass, mais en même temps, elle est juste badass, là. Elle a pas un message à faire.
Pour moi, c'est pas des femmes ingouvernables, tu vois.
Non, c'est exactement.
Pour résumer, femme ingouvernable, hein, c'est vraiment une femme qui impose son discours d'elle-même. Ouais. Donc, elle pose pas un discours ou une forme en particulier. Donc, c'est elle qui vient un peu exploser le matériau narratif. Puis, bon, j'ai l'impression que c'est ça qu'on rencontre dans Bitch Planet. J'ai pas lu Rat Queens aussi, mais peut-être que ça s'approche aussi avec les révérences dont parle Megan.
Absolument. Puis, pour aller rapidement sur Rat Queens, c'est un peu, si ton party parfait de Donjons et Dragons avait son propre comic, honnêtement, c'est absolument formidable. J'ai toujours le goût de faire mon petit mouvement de poing quand je parle de Rat Queens, parce que ça me fait danser à chaque fois. Ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, Violet, qui est un personnage, c'est une naine, dwarf, qui, en passant, va porter la barbe dans les opus suivants, le premier. Violet dit...
Elle est rousse, en plus.
Oui, qui est rousse. Elle dit... Put the sexy back in large wholesale slaughter. parce que les Rat Queens, ils se gênent pas pour... tuer beaucoup de gens de manière violente, mais aussi pour exprimer leur sexualité, pour aller, on va vers des sujets comme par exemple la consommation de drogue, on va vers...
La famille aussi.
La famille, qui est très importante, qui est au cœur de la plupart des aventures des Rat Queens. Comment justement on peut dealer avec, par exemple, le fait que Violet, au début dans le premier opus, Violet refuse de porter la barbe, alors que c'est commun pour les femmes naines dans cet univers-là, tout le moins, de porter la barbe. Puis comment elle deal justement avec sa famille. Il y a Dee qui est née dans une famille qui prie à un dieu. C'est un peu une espèce de...
Ça fait un peu Cthulhu.
C'est ça, c'est un peu Cthulhu.
Mais elle est athée.
Mais elle est athée, donc elle se retrouve à être la high priestess d'une religion en laquelle elle croit pas. Et donc, il y a toute cette idée-là de... C'est des femmes qui doivent défendre leur position dans leur famille, dans la société en général. C'est un groupe composé uniquement de femmes. Il y a une cinquième qui va les joindre dans le troisième opus aussi, Braga, qui va aller avec elles. Et donc, elles se défendent à la fois dans la société, entre elles, dans leur famille. Fait que pour moi, c'est des femmes ingouvernables en ce sens qu'elles prennent la parole... et qu'elles vivent justement leur parole également.
Puis ce que je trouve intéressant aussi, un peu comme dans Paper Girls, quoique dans Paper Girls, elles se connaissent moins, mais Rat Queens, tu vois que c'est un groupe, c'est une communauté, en fait. C'est un groupe de femmes qui travaillent ensemble, qui s'entraident aussi. C'est super important. Il y a une très grande solidarité aussi. Donc, ça met vraiment de l'avant une amitié féminine très, très forte.
Je pense que ça aussi, pour moi, c'est un point important pour un comic féministe. C'est aussi de voir des femmes interagir avec d'autres femmes dans un but de solidarité, dans un but qui n'est pas une compétition pour l'attention masculine.
C'est pour ça qu'on a tendance à associer des films ou même des comics avec une grosse diversité de personnages féminins au féminisme.
Oui, oui.
Je dirais pas nécessairement que tous les comics avec beaucoup de personnages féminins sont féministes, mais nécessairement, il va y avoir une dynamique qui va être différente, qui va être rafraîchissante, puis qui, vu qu'il y a beaucoup de personnages, bien, il y a une diversité qui est très enrichissante avec ça. Puis c'est ça qui fait que éventuellement, moi, je trouve que ces comics-là, comme Bitch Planet, comme Rat Queens, comme Paper Girls, c'est plus féministe que, par exemple, lorsqu'il y a un personnage de super-héros qui devient soudainement féminin. Oui, elle détient le pouvoir, oui, elle peut être irrévérencieuse, mais souvent, au final, elle est entourée presque exclusivement d'hommes.
Mm-hmm. Absolument. Puis ouais. pour faire la boucle avec ce dont je parlais au début, il n'y en a pas de communauté de femmes, là, on s'entend, il y en a zéro, puis une barre, là, dans les comics, mettons... années 20 jusqu'à tout récemment.
Ouais, c'est
là,
très, très récent.
Vraiment, mais pas du tout.
Ah, tu veux dire au sein des comics?
Au sein des comics, uh-huh. Hein, c'est ça. Ça n'existe pas. C'est complètement...
Puis même
toujours
c'est intéressant
dans... unique de la super-héroïne, soit qui agit seule ou avec un groupe
d'hommes.
Avec
un groupe d'hommes, oui, exactement. Ça. Alors que dans Rat Queen, ce qui est intéressant, c'est qu'à un certain point, c'est vraiment drôle. Et en fait, il y a deux groupes, des parties féminins qui... sont un peu en compétition, puis elles vont finir justement par joindre leurs forces, puis être ensemble. T'sais. Fait qu'on voit plusieurs communautés, et on voit aussi des femmes laisser tomber leurs barrières, puis cette espèce de compétitivité-là pour se joindre les forces les unes aux autres, ce que j'ai trouvé aussi super intéressant à voir dans Rat Queens.
Et je remarque que c'est un homme qui a écrit Rat Queens.
C'est un homme qui a écrit Rat Queens.
Curtis J. Wiebe.
Oui, exactement. Mm-hmm. En général, peut-être pas dans le premier opus, dans le deuxième et dans le troisième, je crois, c'est quand même des artistes qui sont des femmes, donc peut-être que là, avec la représentation des corps féminins. En fait, c'est un petit peu plus traditionnel, je dirais.
Si, à partir du deuxième opus, c'est une femme qui dessine, c'est quand même drôle qu'elle ait une barbe. Là.
Mm-hmm. Oui, oui.
Ouais. Oui.
Mais c'est révélateur, en fait.
Absolument. Je vais juste... j'essaie de confirmer, mais je le trouve plus, c'est lequel. Je vais pas confirmer tout de suite parce que c'est trop long à chercher. Mais en effet, ouais, c'est quand même intéressant de voir que ben c'est une femme qui a réinvesti cet attirail de visage là qui est typiquement masculin mm-hmm. à une femme et qui a décidé de demander au personnage de demander ou d'imposer au personnage le fait de vivre avec cette
avec une barbe là, c'est
avec une barbe.
Oui, c'est complètement rebelle, on n'est pas supposé faire ça. Là.
Non.
Wow, une femme avec des poils.
Wow. Je suis vraiment fascinée par les coups de femme à barbe.
Ça, c'est pas juste une petite barbe de 2-3 jours non plus. Là. C'est une belle barbe fournie.
Ah, et belle barbe.
Ouais.
Puis en plus, je tiens quand même à mentionner ça parce que je trouve que c'est important aussi. La diversité corporelle représentée dans Rat Queens est aussi intéressante. Bon, naturellement, on a une naine et un gnome et une espèce de. En fait, pas vraiment une elfe, mais est un peu.
Mais c'est un peu comme.
Demi-démon, là.
Ouais.
Enfin, bref. Et bon, elles ont toutes des corps différents, sont toutes représentées avec énormément de respect. Il y a pas de gêne justement. On n'a pas seulement le corps élancé parfait avec les gros seins, la taille parfaite. On a aussi la naine est un petit peu, elle a un petit pas joufflu, là, elle n'est pas joufflue vraiment. Là.
Elle a le gabarit d'un nain.
Oui,
c'est un peu ça, la constitution d'un nain,
aussi.
Right?
Mais c'est aussi intéressant que ce soit différents illustrateurs à chaque fois. Je ne suis pas sûre que ce soit des femmes à chaque fois, mais ça donne aussi un autre aspect de à quel point les corps peuvent être variés. Là. Si même à chaque opus, il y a des illustrateurs différents. Je veux dire, il y a une interprétation différente du corps qui est dessiné là, puis qui est présenté. Puis encore une fois, comme on l'a dit plus tôt, qu'il n'y a pas de commentaire associé à ça, c'est juste la présentation, tu sais, le dessin de corps.
Ouais. Ouais. Puis ce que je trouve intéressant, j'ai vu quand même pas mal de dessins, surtout Tess Fowler, qui est celle qui a fait le troisième opus, qui, elle, envoyait plusieurs dessins à l'équipe du comic, puis souvent c'est elle qui était la plus critique envers les corps qu'elle représentait, alors que l'équipe composée d'hommes majoritairement, elle, c'est elle qui était le plus critique sur les corps. Elle voulait s'assurer que les corps étaient représentés de la manière la plus respectueuse ou respectueuse possible. Fait que c'est surtout elle qui était super critique sur ses propres dessins, hein, ce que j'ai trouvé quand même intéressant, là.
D'accord. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Parce que ça, c'est déjà, l'heure est déjà terminée. On va laisser un mot de la fin. Lisez des comics féministes?
Ben oui! Là, qu'est-ce qu'on a nommé aujourd'hui? On a nommé Rap Queens, on a nommé Bitch Planet, Paper Girls.
Non. Moi, j'ai nommé... je conseille beaucoup la série des Miss Marvel.
On a nommé Odyssée.
Oui, Odyssée. Lumberjanes, qui est très, très bon. On n'en a pas beaucoup parlé. Non, c'est, ça se passe dans un camp de jour. Un camp, là. C'est pas juste de jour. Avec un groupe de filles qui sont adorables. Moi, je les adore. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre?
Saga, on a parlé.
Oui, Saga, oui.
Miss Marvel.
Il y aurait Monstress aussi, qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais oui, ce serait super intéressant.
Je suis d'accord, moi aussi, j'ai commencé à le lire, puis j'ai bien aimé ça. Il y a Scarlett aussi, je ne sais pas si vous l'avez lu.
Non.
C'est Jim qui m'avait passé ça. C'est, justement, ça traite de révolution, puis je trouvais c'est intéressant que ça soit cette fille rousse qui soit à la tête de la révolution contre la violence policière. Ce qui est intéressant, c'est que les premières parutions... ou les premières rééditions, je pense, de la série ont eu lieu lors des attaques policières là, aux États-Unis. Donc, c'était vraiment comme super à propos sur le plan politique. Là.
Et c'est toujours très important de parler de révolution. Moi, je suis tout le temps...
Toujours.
Là-dessus. Donc, merci beaucoup à Fanny Demel, Pascal Thériault, Roxane Chartrand et Mégane Bédard d'avoir été avec nous. Je m'appelle Hélène Lorrain. C'était Pop en Stock. L'épisode 143 sur les comics féministes. Votez pour nous, donnez-nous comme des points dans iTunes ou votre manière d'écouter des podcasts pour qu'on soit au top de tout du monde entier et justement faire la révolution. On doit se quitter là-dessus. Je vous remercie. Au revoir.
J'ai jamais su comment te remercier d'être là, te dire à quel point tu comptais pour moi. Au lieu de ça, on se crie des mots qui blessent pour se dire que l'on s'aime et on noie nos sentiments pour cacher nos faiblesses. J'ai jamais su comment te remercier d'être là, te dire à quel point tu comptais pour moi. Au lieu de ça, on se crie des mots qui blessent pour se dire que l'on s'aime et on noie nos sentiments pour cacher nos faiblesses. J'ai jamais su comment te remercier d'être là, te dire à quel point tu comptais pour moi. Au lieu de ça, on se crie des mots qui blessent pour se dire que l'on s'aime et on noie nos sentiments pour cacher nos faiblesses.
La 18e édition du Festival MUTEC se tiendra du 22 au 27 août à Montréal avec une centaine d'artistes, dont Daphne, Aurora Halal, Surgeon, Robert Henke, Nicolas Cruz et Zip. Scène extérieure, performance audiovisuelle, soirée drone, house, techno ou expérimentale, 6 jours et nuits de découverte. Info sur mutec.org.
Soc.ca s'associe aux soirées d'écoute publique en partenariat avec les RIDM et Prime pour la deuxième édition du concours de documentaire sonore Le réel à l'écoute. Vous êtes un créateur sonore canadien et vous travaillez sur des œuvres francophones? C'est votre chance de remporter plus de 1 000 $ de prix et une place dans la programmation des RIDM 2017. Vous avez jusqu'au 31 août minuit pour soumettre votre projet sonore de 10 minutes maximum. Pour participer ou obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site de Soc.ca sur l'onglet Le réel à l'écoute.
Hey, les shows de Ruelle reviennent cette année dans la ruelle Gaboury d'Hochelaga. Le concept est simple. 5 jeudis soirs avec des shows d'artistes québécois gratuits, de la bonne bouffe et de la bonne bière. Le 29 juin,